Il est 7h17. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Louis.
Alors, bon, tu veux me parler de Desjardins et démontrer que Desjardins n'est pas une banque, contrairement à ce que pense l'Iris.
Oui, en fait, c'est qu'on dit « Ah, Desjardins est banquérisé, on n'est plus au service des membres, mais contrairement à ce qu'Alphonse disait, on est au service de la haute direction des bailleurs de fonds. » Tu sais, excuse-moi, là, je vais sortir dans la rue puis je vais manifester. Tu sais, on se calme. Première des choses, faut être cohérent. Premièrement, il n'y a pas d'actionnaire chez Desjardins. Parce que s'il pouvait y avoir des actionnaires chez Desjardins, ben moi, je serais peut-être actionnaire avec des dividendes. Mais non, il n'y a pas d'actionnaire. Ce sont des membres.
Des membres qui reçoivent, copropriétaires, non? Parce que quand tu achètes
une part. T'es pas propriétaire, t'es membre.
T'es au
service. L'OBNL est à ton service. Okay? Okay. Pas l'OBNL, la coopérative, parce que c'est un peu lucratif. Donc, le but, c'est d'aider les membres. Mais aider les membres, faut le définir aussi. Accuser Desjardins d'être une banque, parce qu'on cherche des surplus pour pouvoir monter du capital, pour être capable de prêter à d'autres mondes, c'est servir les banques, pas les banques, mais les membres, ça, tu comprends?
Ouais.
Ce n'est pas être une banque. Et Desjardins, deuxième point, n'est pas un organisme à but non lucratif, et ça ne l'a jamais été. Et c'est ça l'erreur tout le temps d'analyse. On veut comparer des fois Desjardins à un centre d'aide pour les personnes en besoin. Mais non! Desjardins, c'est une coopérative au service de ses membres qui veut faire des surplus. Parce que dans la vie, pour prêter, ça prend des dettes et du capital. Et Desjardins ne peut pas émettre du capital ou des actions parce que ce n'est pas une banque. Et donc, elle doit générer des surplus pour être capable de prêter à d'autres membres et ainsi prêter à tout le monde. Parce que dans le fond, prêter à du monde pour qu'il s'achète une maison, une terre ou du capital, c'est être au service de ses membres. Alors pourquoi on l'accuse d'être une banque, tu sais? Troisième point. Faut pas confondre l'évolution de Desjardins et la société et le contexte. Tu sais, faut monter à l'époque qu'on prêtait pas aux Canadiens français dans les banques, que les taux d'intérêt étaient des fois à 10, 15, 20 %. À une époque, il y avait des systèmes informatiques, il y en avait pas, il y avait pas de guichet, il y avait pas de transactions en ligne, tout était fait à la main. À une époque, il y avait des caissiers, on en avait besoin. À une époque, tu avais besoin d'aller le vendredi à la caisse pour avoir de l'argent pour la fin de semaine. Le monde a changé. Et donc, fermer des succursales, ce n'est pas devenir au service du capital. C'est simplement se dire, pour les besoins des membres, en général, c'est d'avoir des meilleurs systèmes informatiques. Et maintenant, le membre est de plus en plus électronique et l'argent papier disparaît. On va pas continuer à utiliser des télégrammes dans la vie quand l'Internet fonctionne, tu comprends? Alors, pourquoi Desjardins est accusé d'être une banque? Parce qu'elle évolue en fonction de la société. Tu sais, être un membre en 2019, c'est quoi? C'est vouloir avoir des faibles taux sur ton prêt hypothécaire.
Ouais.
C'est d'avoir des bons prix, tout ça. Alors, si tu veux avoir ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que l'entreprise génère de la rentabilité pour être capable de faire ça. Il faut qu'elle coupe des coûts pour être capable de faire ça. Et si tu décides de baisser les ristournes pour offrir des meilleurs prix à la base aux emprunteurs et d'offrir des meilleurs rendements à ceux qui placent, est-ce que c'est grave ou c'est juste une redistribution différente? Et des fois, les ristournes, dans certaines places, on décide simplement de les donner à la collectivité. Tu sais, de donner plus de dons à la collectivité, des bourses, etc.
Ouais.
Et finalement, cinquième point, on dit, tu sais, autrefois, Desjardins était un véhicule d'épargne. Ça, c'est le plus drôle dans l'analyse, pour vrai, là, j'ai un peu ri, là. On dit qu'en 1961, la consommation ne représentait que 8,8% de l'actif total de Desjardins. Puis aujourd'hui, hey, plus de 50% de l'actif, c'est des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation. Donc, Desjardins n'est plus père de son côté caisse et on s'en va vers la banque parce qu'on veut endetter les gens. Mais non, t'as un membre qui veut une maison. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui travaillent souvent. Le prix des maisons est plus élevé. Les taux d'intérêt sont plus bas. Qu'est-ce que ça génère, ça? Ça génère un besoin d'emprunt. Alors, vas-tu dire à ton membre, « Hey, je voudrais que t'épargnes plus, là, parce que moi, du haut de mon pète. »
Je te prêterai pas parce que je veux que t'épargnes plus.
Donc, je vais t'empêcher de servir ton bien-être que tu veux avoir de l'emprunt. Je vais t'en donner, là, tu sais. Je vais pas aller à l'encontre du désir des membres. Alors, quand on dit que Desjardins est au service de la haute direction puis des bailleurs de fonds, tu sais, des fois, les risques d'un bord, c'est exactement comme l'Institut économique de Montréal. Tu sais, on tire vraiment fort la couverture de chaque bord et la réalité est peut-être pas mal plus dans le milieu.
Bon, tu disais tout à l'heure que, excuse-moi, c'est l'émotion, que le monde a changé et c'est la fin de Groupon au Québec. C'était populaire ça avant, puis c'est vrai qu'on n'entend plus parler de ça du tout. Hein?
As-tu déjà utilisé Groupon?
Non.
Non, écoute,
très
non
mais honnêtement, là,
ouais, non. Honnêtement, tu sais, c'est quoi? C'est des achats groupés. C'est le fait d'avoir des rabais que tu paies. Dans le fond, t'es un client, t'achètes des rabais.
Toi, tu déjà utilisé Groupon?
Non, mais d'autres dérivés.
Okay.
J'ai déjà utilisé le renard.ca qui est devenu Tuango. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Groupon, il y a Teambuy, il y a Living Social. Il y a Le Voir, maintenant, qui se finance de la même façon.
Ouais.
Et Groupon, évidemment, a pas réussi à passer à travers le temps. Tu regardes l'action, là. Il était demandé l'action, là. On parle, là, de l'action en 2011-2012. Là, on parle de 25$ l'action. Là, on est rendu à 3,55$.
Ouais.
Pourquoi? Ben, parce que c'est basé sur le fait d'avoir des clients puis d'avoir des fournisseurs de services. Mais si le client a une mauvaise expérience, il veut pas retourner. Les états financiers parlent d'eux-mêmes, là. On a quand même encore chez Groupon en Amérique, là, 578 millions de revenus et partout dans le monde. Et en dépenses, on parle juste pour un trimestre.
Ouais.
Et en perte, 43 millions de pertes. Donc, ça ne fonctionne plus. Parce que là, il y a eu toutes choses qui sont arrivées pendant ce temps-là. Il y a eu des concurrents, mais il y a aussi que le client maintenant, il peut magasiner le meilleur prix pour quelque chose sur Internet.
Ouais.
C'est sûr que ça permettait d'avoir un coût marketing pour les fournisseurs qui étaient concentrés sur un client qui voulait acheter. Mais qu'est-ce que tu veux? Le monde évolue et consomme autrement et Groupon, mais ça lève plus, qu'est-ce que tu veux?
Il y a des choses comme ça qu'avec le temps, ça arrive.
Ils disparaissent.
Exactement.
C'est comme Beyond the Rack, ça n'existe plus.
Voilà. Merci, Pierre.
Salut.